The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bienvenue, c'est une nouvelle édition de Série Folie qui s'annonce à vous. Bien le bonsoir, Aurore.
Bonsoir.
Émission 35 de la saison 5, l'avant-dernière de la saison déjà. On va parler séries télévisées évidemment et on va débuter cette émission comme chaque semaine avec deux séries que tu as revues pour nous dernièrement, une récente et une série qui est déjà dans sa saison numéro X. Alors, par quoi veux-tu commencer ?
Alors, je t'avouerai que étant donné que la semaine prochaine, on fera plutôt un bilan et que donc on n'aura pas l'occasion de faire une revue ni des nouveautés, ni des séries des saisons qui s'achèvent, j'ai beaucoup hésité parce que malgré tout, il y a des nouveautés de l'été qui ont commencé à apparaître. Et puis parce que forcément, il fallait faire un choix. J'avais au départ pensé parler d'une série que j'avais découverte sur Amazon qui s'appelle Cloak and Dagger et qui est une série Marvel. Mais je viens à peine de commencer, donc je me suis dit que c'était peut-être un petit peu rapide, de même que Dietland que j'ai découverte hier. Et dont je n'ai vu qu'un épisode, mais qui promet aussi d'être plutôt intéressante, puisque c'est, j'ai l'impression, la première série qui nous parlerait de grossophobie, si tu vois de quoi je veux parler. Mm-hmm. Et je dois dire que ça a l'air d'être plutôt original et intéressant. Donc à suivre ces deux séries-là, donc, qui sont disponibles toutes les deux sur Amazon, pour voir ce que ça donnera cet été. Toujours est-il que on va clôturer plutôt avec une série qui est un petit peu plus ancienne que j'ai suivie à mon rythme parce que pour une fois il s'agit non pas d'une série de fiction mais une série documentaire. C'est sur Netflix et ça s'appelle Flint Town. Alors, j'en ai vu 7 épisodes pour le moment, 7 épisodes sur 10, et ça nous parle de quoi ? Ben, ça nous parle de la ville de Flint, comme tu auras pu le deviner, ville du Michigan qui est dans une situation apparemment assez dramatique, notamment à cause d'une contamination de l'eau qui a rendu la situation des habitants particulièrement précaire, mais pas que, puisqu'il y a une dérégulation telle des services publics et principalement ici on va se centrer sur les services de police, que la criminalité est galopante, que les maisons abandonnées, on en retrouve partout, et du coup avec les problèmes d'hygiène, les problèmes de squat, les problèmes de drogue, les problèmes d'armes à feu aussi évidemment, tout ça se concentre en une seule petite ville. Le documentaire semble avoir été filmé en 2016, donc aux alentours de la campagne présidentielle. Et je dois dire que c'est particulièrement intéressant et particulièrement inquiétant aussi. Parce que on voit à quel point on a une dégradation de cette Amérique-là, de l'Amérique dont on ne parle finalement qu'assez peu, et notamment à la télévision, dans les séries télévisées, on les voit peu. C'est aussi intéressant quand on s'intéresse aux séries parce que ça permet peut-être de prendre un peu de recul et de comparer avec ce qu'on nous montre de la police et des pompiers et de leur travail dans les séries qui leur sont consacrées. Et là, on voit que malgré tout, ça manque, pour le moment en tout cas, une série qui ne se cache pas les problèmes actuels de ces services-là, quoi, parce que ça a l'air d'être assez dramatique, au minimum dans certaines villes. J'imagine que ce n'est pas comme ça partout, mais en tout cas, à Flint Town, c'est vraiment... à Flint et dans Flint Town, c'est particulièrement flagrant. Donc,
petite question, ouais. Flint, ça me rappelle... tout doucement un nom,
oui,
qui a été peut-être mis à l'honneur aussi dans un autre reportage, c'est possible, ça ne te dit rien.
Alors, je ne suis pas certaine en fait, donc j'ai peur de dire une bêtise.
Oui, non. Mais...
il est possible que ce soit aussi de là que vienne Michael Moore.
Mais c'est ça, mais oui. Est-ce qu'il n'a pas été filmé aussi à un moment
Oui, il avait, parce que justement... c'était une ville qui a vécu pendant longtemps grâce à l'industrie de Ford, General Motors, et évidemment quand l'usine a fermé ses portes, toute la ville s'est retrouvée un petit peu en faillite déjà à ce moment-là, et ça fait c'est vrai déjà un petit temps que ce film documentaire de Michael Moore qui s'appelait Roger and Me, je crois, traitait de cette cette ville-là. Oui, je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit.
Si c'est le même Flint, en tout cas, ça me rappelle ça. Donc, elle ne s'améliore pas, cette ville, en gros.
Ah non, elle ne s'améliore vraiment pas parce que, en effet, la ville a subi de plein fouet la crise économique, mais à ça se rajoutent les politiques de dérégulation à tout va qui font qu'il y a un nombre ridicule de policiers et de pompiers qui sont censés s'occuper de l'ensemble des problèmes d'une population quand même assez importante. Et ces problèmes sont en plus grandissants vu l'état de la ville, la pauvreté et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, on peut constater les vrais problèmes que pose l'abandon des services publics, comme on dit chez nous. Donc voilà, ça peut être intéressant pour nous inspirer peut-être pour notre avenir à nous. Essayer de ne pas faire les mêmes erreurs, pourquoi pas.
Oui.
Et en plus, je rajouterais que chaque épisode, c'est un documentaire comme je l'ai dit, mais chaque épisode est assez bien organisé autour d'un thème en particulier, et ça permet comme ça d'aborder cette ville et ses problèmes sur plein d'aspects différents, même si je crois que c'est quand même une ville, un documentaire qui tient un certain propos, qui n'est pas neutre politiquement, elle essaie quand même de nous offrir un panorama assez large de la situation, et donc c'est assez intéressant, quoi. Il faudrait, je crois, être vraiment très très pro-Trump ou pro-dérégulation néolibérale pour trouver à redire à ce documentaire. Voilà.
Ok.
Voilà. Donc, ça s'appelle Flint Town et c'est disponible déjà depuis un certain temps sur Netflix. À jeter un œil, tout comme je l'avais dit, Cloak & Dagger et Dietland. Alors, pour la non-nouveauté, cette fois-ci, j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine passée quand on avait parlé du mariage, mais là, j'ai enfin vu la fin de la fin de la fin de The Americans, la saison 7 qui était la dernière et qui donc clôture de manière assez impressionnante, je dois dire, cette série qui est restée impeccable de bout en bout. C'est une série qui est vraiment impressionnante par sa tenue, qui n'a jamais été dans les effets qui l'ont fait particulièrement remarquer. Tu vois, il n'y avait pas de grands effets de style, il n'y avait pas de grands retournements qui auraient pu faire énormément parler d'elle ou quoi. C'est une série qui est toujours restée sur un ton assez régulier, qui n'était pas forcément super facile à aborder d'ailleurs, parce que finalement... On rigole pas beaucoup hein, en regardant The Americans. C'est un sujet qui est quand même pas évident et on n'a jamais vraiment l'occasion de se détendre en se disant « Ah, enfin, un moment un peu plus comique ». C'est pas une série comique du
tout. Non, pas du tout, non. C'est même assez noir et grise dans l'image, d'ailleurs.
Oui, et puis dans ces sujets, dans ce qui arrive à certains, si pas la plus grande partie de ces personnages. Enfin, c'est vraiment une série exigeante, mais impressionnante et super intéressante. Qui s'est terminée, je dois dire, de la même manière qu'elle s'est déroulée pendant cette saison, et c'est ça aussi qui est remarquable, tout en réussissant, malgré tout, à nous surprendre, en tout cas à me surprendre, à me garder en haleine et même presque sur des je dirais pas des charbons ardents, mais vraiment sur les nerfs, en tout cas pendant ce dernier épisode qui est vraiment émotionnellement assez intense, même si on tombe jamais dans la facilité, dans le truc un peu larmoyant ou quoi. Au contraire, c'est vraiment tenu d'une manière assez rigoureuse, hein, presque froide, avec ces espions qui nous viennent de l'Est. On a quand même une présentation d'une série qui a un aspect assez froid aussi. Mais c'est juste parfait, quoi. Donc, il y a rien à dire à cette série qui donc est à découvrir pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu aux séries et qui veulent voir... comment on peut dérouler une histoire passionnante tout en étant quand même assez exigeante, mais dans laquelle on s'ennuie jamais pendant cette saison, sans déroger à ses objectifs, à sa manière de faire du début à la fin. Mais il faut se plonger dans The Americans, donc, qui nous parle de une famille... d'Américains ordinaires, mais qui sont en fait, dans les années 80, hein, des espions russes qui ont réussi à s'infiltrer et dont le voisin, en plus, est un agent du FBI. Donc, tu imagines...
La complexité.
Waouh, ouais. Et je dois dire que oui, c'est vraiment une série qui est à voir, qui, à mon avis, restera dans les annales des séries pendant longtemps, et qui a l'avantage aussi de ne tomber dans aucun des clichés, des facilités qu'on a pu voir ailleurs dans le traitement des personnages qui auraient été un peu trop stéréotypés ou quoi que ce soit. Au contraire, on a des vraies personnes qui existent vraiment, avec une vraie richesse de caractère qui arrive à nous surprendre régulièrement, tout en restant parfaitement cohérent, quoi. Et j'ajouterais même que ce dernier épisode, quelque part, vient mettre la petite cerise sur un gâteau qui était déjà parfait, parce que chacun des personnages, finalement, arrive à une conclusion logique, tout en montrant à quel point cette histoire, ces 7 ans passés ensemble, ne peut pas ne pas avoir laissé de traces, quoi. À quel point, finalement, infiltrer une culture ou être infiltré par une culture, en tout cas s'entre-infiltrer les uns les autres, et bien finalement, ça tisse des liens qui resteront toujours là. Et je dois dire que c'est aussi assez impressionnant à ce niveau-là de voir un propos finalement aussi intelligent et nuancé dans une Amérique d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà.
Ok. Voilà, un grand plaisir. 5 saisons, donc.
Non, 7.
7 saisons, oula.
7 saisons, eh oui, ça fait un gros morceau qui s'en va, là. Ça va être difficile de lui trouver un remplaçant à la hauteur.
En effet. Bon, c'est déjà le moment de retrouver un peu de musique sur Buzz Radio.
Oui, on va s'écouter Wonderwall de Oasis, entendu dans Everything Sucks.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
la suite de Série Folie avec un thème abordé. Quel est-il, Aurore ?
On va parler de Dieu.
De Dieu.
Voilà.
Ok.
Non, mais dans les séries, qu'on s'entende, ne tire pas encore une tête jusque par terre.
Mais même. Hein.
Ah, même dans les séries, tu crois que c'est ennuyeux ?
Bon, on va voir.
Bah écoute, dans les séries, c'est rarement, rarement ce qu'on attend d'un discours sur Dieu, hein. Il faut l'avouer. Bon, ben on va commencer tout de suite, oui. Du coup, pour essayer de te convaincre. En commençant peut-être simplement par les séries qui nous montrent Dieu, qui nous en donne une image, une représentation quelconque. Bon, j'en ai sûrement oublié ou bien sans doute que je ne les connais pas toutes, ça c'est même certain. Mais en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai retenu 6 en tout et pour tout. Et encore, il y en a une, on pourrait discuter. Alors, il s'agit évidemment de Supernatural. Dans Supernatural, nous avons un dieu qui s'appelle Chuck, qui est quand même très 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 souvent absent. Hein, on le voit, je crois, seulement pendant 2 épisodes. C'était la saison passée ou la saison d'avant. Enfin, il y a pas si longtemps que ça, en tout cas. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est à la fois un dieu qui est très absent. Qui, quelque part, a pris des vacances et nous a abandonné. Le thème du dieu qui aurait abandonné l'humanité est quand même très très présent dans les séries télévisées, me semble-t-il. Et en même temps, on a aussi la représentation d'un dieu, quand il se présente dans les 2 épisodes en question, qui est plutôt cool, quoi. C'est un mec un peu comme tout le monde, il a des petits problèmes familiaux, mais il en a un peu marre de vivre là-dedans, et tout ce qu'il cherche, c'est à vivre en paix, quoi. Donc c'est le mec qui se casse pas trop la tête, et c'est une des images qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres séries aussi, l'image d'un dieu finalement, comme tout le monde, un dieu un peu quotidien, accessible, avec qui il y a moyen de discuter, étant donné que malgré tout c'est Dieu, hein, il a beaucoup de travail et il n'a pas que ça à faire non plus. Et surtout, souvent, il a envie de prendre des vacances.
On dirait moins, quoi.
Ah ben voilà, tu es un peu notre dieu à tous, mm-hmm, sur Buzz Radio.
C'est ça, oui.
Bon, cette image-là du dieu sympa qui papote avec le héros de notre série, on va aussi avoir ça dans Les Simpsons, par exemple. Je ne sais pas si tu as quelques souvenirs, mais parfois on voit Homer, au moins dans un épisode, mais à mon avis ça doit pas être le seul, on voit Homer discuter avec Dieu comme ça. C'est une représentation finalement assez accessible, même si dans d'autres épisodes on va pouvoir avoir des blagues sur le fait qu'il y aurait plusieurs paradis par exemple ou des choses comme ça. Il joue évidemment beaucoup avec tout ça, mais en tout cas c'est dans la lignée finalement de ce que les séries nous proposent, c'est-à-dire remettre un petit peu tous les idéaux, toutes les grandes valeurs auxquelles on peut croire à hauteur d'homme, quoi, les réintégrer dans le quotidien de chacun d'entre nous. Et c'est la même chose pour l'image de Dieu, autant dans les Simpsons que donc dans Supernatural, ou encore il y avait une série, alors je t'avouerai que j'en ai pas vu énormément d'épisodes, qui s'appelait Black Jesus, et dans lequel on avait un Jésus noir qui se promenait dans la rue comme ça, qui se laissait interpeller par les gens du quartier. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi, mais en tout cas c'est une représentation qu'on a d'un dieu assez accessible, tu vois, un monsieur tout le monde qu'on peut interpeller au coin de la rue. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va aussi cette image de d'un Jésus totalement dédivinisé entre guillemets. On l'a aussi dans South Park, évidemment, où là c'est encore pire parce que
ils vont pas se gêner non plus.
Il apparaît carrément comme ridicule, hein, Jésus dans South Park, notamment quand il essaie de faire des miracles. Faut avouer que c'est un petit peu n'importe quoi. Et puis dans José aussi, la série française d'OCS qui nous présente Jésus qui revient sur Terre actuellement pour sauver à nouveau l'humanité sous la forme de José, donc. Et José, il fait un peu clodo, hein, il faut l'avouer, il traîne avec des clodos et il est un peu dépourvu face à l'ampleur de sa tâche, quoi. Ça n'est qu'un homme. Mais dans ces deux séries-là, on n'a pas que Jésus qui est représenté, puisqu'on a aussi Dieu lui-même qui est représenté. Il est représenté, alors, dans José sous la forme d'un singe, dans South Park sous la forme d'une bestiole bizarre, difforme, un peu dégueulasse comme ça. Et alors, on a aussi une représentation animale de Dieu dans Preacher. Alors, c'est un petit peu un spoiler, mais dans Preacher, il faut avouer que on a aussi une représentation. Alors, c'est pas de Jésus, mais c'est un descendant de Jésus et c'est pas beau à voir. Et puis, on a une représentation de Dieu aussi, au minimum sous un déguisement de chien. Dans Preacher, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver à la fois le thème du Dieu absent. En même temps, on a une représentation un peu animale comme ça d'un dieu, c'est-à-dire non seulement il a été totalement redescendu au niveau humain, mais il est même au niveau infra-humain, quoi. On constate que dans ces trois séries-là, où on le représente plutôt sous la forme d'un animal, il y a une volonté comme ça d'encore plus rabaisser cette image de Dieu que en le représentant simplement comme un humain ordinaire. Donc voilà, les dieux que nous proposent les séries, en tout cas ces séries-là, il faut avouer qu'ils n'ont pas l'air hyper badass, ils font pas très très peur. Y en a certains qui sont sympas, mais la plupart du temps, ils sont plutôt ridicules, hein. Malgré tout, on va aussi pouvoir retrouver un thème qu'on pourrait raccroché à d'autres séries qui ne nous présentent pas Dieu, mais qui nous présentent au minimum des gens qui pourraient avoir un complexe de Dieu. Notamment dans Supernatural, y a l'idée du créateur, du Dieu créateur qui va un peu se confondre aussi avec avec celui qui crée la série en lui-même, si tu vois ce que je veux dire. Le dieu d'une série, finalement, c'est toujours un petit peu son créateur, celui qui raconte les histoires. Et c'est un thème qu'on va pouvoir retrouver surtout dans Westworld. Et j'avais pensé aussi à une série comme Dollhouse, où on pouvait aussi avoir une intelligence totalement humaine, mais qui peut se servir comme ça de sorte de poupée humaine, un petit peu à son gré, quoi. Donc ça, c'est aussi une représentation intéressante de se dire, finalement, dans les séries, quand on nous représente Dieu, on n'est jamais bien loin non plus de l'idée du créateur artiste qui se cache derrière l'histoire en elle-même. Voilà, ça c'était pour les représentations de Dieu en lui-même. Tu auras remarqué que on reste quasiment exclusivement dans un contexte chrétien, hein, au sens large du terme. Alors, dans South Park, on a des représentations d'autres formes de divinité, hein. Il y a certains épisodes qui vont nous présenter même tous les dieux, ou en tout cas les supposés dieux, notamment l'épisode des super meilleurs potes, hein, ils font une ligue des dieux, mais dans laquelle on va aussi retrouver Seaman, donc c'est assez bizarre comme manière de représenter la divinité, mais à part ça, on n'a pas vraiment beaucoup d'autres choses à se mettre sous la dent, hein, tu vas me dire. Peut-être que le christianisme est-il la religion qui va le plus se prêter à une forme de représentation matérielle, humaine ou autre, de la divinité. Quoique, hein, si on va du côté peut-être des divinités hindoues, il y aurait peut-être aussi moyen de faire des choses dans ce côté-là. À noter que malgré tout, il existe d'autres formes de dieux dont on reparlera dans la deuxième partie, mais notamment il y a eu l'année passée la série American Gods qui nous représentait aussi donc des divinités américaines, mais là des divinités carrément païenne, entre guillemets, et d'ailleurs on en reparlera parce que ce sont des divinités qui sont très loin de représenter l'image de la perfection ou du bien ou ce genre de choses là quoi, hein. Donc c'est l'autre tendance de la représentation de la divinité dans les séries, c'est qu'on va aussi avoir certaines séries qui vont pas tellement nous représenter Dieu en tant que tel, ou en tout cas pas au sens chrétien, religieux, bien propre sur soi, etc., auquel on peut penser, mais qui vont nous représenter plutôt des créatures un petit peu divines, mais plutôt maléfiques. Tu verras, on y reviendra. Alors à part ça, j'avais aussi pensé au fait que Jane the Virgin, elle représente quand même un petit peu, au minimum, dans la manière dont on l'a vendue sur les affiches, etc. Et puis rien que dans le nom, hein, y a quand même une idée assez forte de représentation de la Vierge Marie là-dedans qui est présente et qui était aussi intéressante à souligner. Et puis on a toute une série de serviteurs plutôt de Dieu. Alors, soit des serviteurs directs, des anges ou bien des gens qui sont directement envoyés par Dieu ou missionnés par Dieu sur Terre. On peut penser à John from Cincinnati, même si les choses ne sont pas totalement claires sur qui il est exactement et ce qu'il vient faire, mais en tout cas, il semble avoir des pouvoirs surhumains et particulièrement touchants émotionnellement, qui investissent les personnes entièrement. Et puis on a aussi dans les séries plus récentes, on avait eu Kevin Probably Saves the World, où là aussi il était affublé d'un ange qui lui disait un petit peu ce qu'il devait faire, un peu sur le mode les routes du paradis. Je sais pas si tu te souviens de cette vieille série là.
Bien sûr.
Donc il y a aussi ce genre de représentation là qui est plutôt là aussi un dieu bon, hein, qui envoie quelqu'un pour venir faire le bien sur Terre. Et puis on avait aussi une petite comédie un petit peu moins clair, j'ai eu l'impression, mais elle a été annulée au bout d'une saison, sur son propos exactement, qui s'appelait Angel from Hell, et où on avait aussi une sorte d'ange, mais on ne savait pas trop si c'était un ange ou pas. Enfin, il y a toujours autour de certaines personnes comme ça qui nous sont présentées dans les séries, un mystère sur d'où elles viennent exactement, qui les a envoyées, pourquoi elles ont certains pouvoirs, etc. C'est un thème qui revient également. Et puis on va avoir aussi plus des serviteurs de Dieu, mais purement humains, là, hein, des gens qui sont des fervents croyants, qui nous sont représentés aussi. Alors, on va avoir plutôt le côté représentant de Dieu, mais qui en profite pour faire des saloperies, il faut le dire comme ça. Je pensais notamment à Carnival, je pensais à Banshee, dans lequel on a... Alors, c'est quoi je ne me souviens plus du nom de cette... c'est une secte? Je ne sais pas non plus. Bon, bref, ceux qui connaissent Banshee comprendront de quel groupe je veux parler. Il y a aussi The Young Pope, même si j'avais pas été très loin dans cette série-là, mais en tout cas le pape qui nous était représenté avait pas l'air du tout d'être préoccupé beaucoup par le service de Dieu. Ou bien alors dans la série Chewing Gum aussi, on a une mère hyper religieuse comme ça, et toutes les personnes qui sont religieuses dans la série sont plutôt ont plutôt un grain et vont plutôt utiliser la religion pour contraindre totalement, notamment l'héroïne principale. On va aussi avoir des serviteurs de Dieu, mais qui vont plus se débattre un peu avec la difficulté d'un monde qui est loin d'être parfait et dans lequel ils sont parfois obligés de faire des choses pas très très catholique, si tu me permets l'expression, pour survivre. Ils sont obligés de faire des compromis tout en gardant leur foi comme ça et en essayant de la placer là où ils peuvent. Je pense à une série comme Big Love, je pense à Pure, je pense à Crashing, pas la version anglaise mais la version américaine. Et puis on va avoir les séries qui vont nous présenter finalement des gens qui sont investis par une sorte de foi, mais qui en même temps sont porteurs du message plutôt que finalement ce qui fait véritablement la divinité, c'est eux-mêmes et c'est la foi qu'ils mettent en ce qu'ils font, quoi. Je pense à une série comme Friday Night Lights, dans laquelle on a quand même certains personnages qui sont très religieux, mais c'est plus aussi leur propre force intérieure qui leur permet d'être des personnes parfois très, très admirables dans ce qu'elles font. Je pense à Rectify aussi, où la foi peut porter certains des personnages. Alors dans Oz, c'est un peu plus compliqué. Parfois, la foi sauve, et puis parfois, on est plus faible qu'on ne l'aurait cru, et puis elle n'arrive pas toujours à sauver. Mais on a quand même deux personnages très très religieux, le prêtre évidemment et la sœur, qui eux sont vraiment portés dans leur mission au sein de cette prison par leur foi. J'avais pensé aussi à la série Waco, dans lesquels on a aussi des gens qui sont très religieux et ça les porte aussi, mais on ne sait pas trop si c'est une bonne chose ou pas finalement, hein. Tout ça est assez, assez difficile à démêler. Et enfin, la dernière série à laquelle j'avais pensé, c'était Damnation. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette série-là, on pourrait se dire, est-ce que vraiment il y croit, hein? Il se présente comme un pasteur, le personnage, un des deux personnages principaux en tout cas, mais en même temps il ne l'est pas vraiment, il a un peu usurpé ce titre, mais en même temps le fait qu'il se présente comme un pasteur, c'est assez intéressant parce que ça lui fait porter une sorte de message sur l'idée qu'il y a la révolution qu'il porte, la révolution des fermiers contre les gens qui essaient de leur voler leurs terres, etc. Cette révolution très très humaine, finalement, elle dépasse sa seule personne, la seule politique. C'est presque une mission divine que d'arriver à mener cette mission à bien. Et ça, je trouve aussi très très intéressant de voir que ce sont parfois les personnages les moins porteurs de foi, les plus douteux. C'est aussi le cas dans Preacher, hein, d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Où ce sont, oui, ces personnages-là, je crois que ça a peut-être quelque chose de très américain, cette idée qu'on peut, comme ça, en ayant été plutôt quelqu'un d'assez peu fréquentable pendant très très longtemps, rencontrer une sorte de seconde naissance, renaître à travers la foi. Y a quelque chose qui est très relié à ça, autant dans ce personnage de pasteur dans Preacher et dans Damnation, j'ai l'impression.
Alors, tu auras raté les dernières saisons de Walking Dead, mais il y a aussi un personnage comme ça qui fait un peu son coming back, donc le prêtre noir.
Oui, je vois.
Qui est un peu mystique sur la fin.
Oui, ok, d'accord. Ça ne me donnera pas plus envie d'aller voir. Mais de fait, souvent quand on a des représentants de Dieu dans les séries, ce sont loin d'être des gens parfaits. Hein. Ce sont des gens qui sont porteurs de pas mal de péchés à confesser, on va dire ça comme ça.
Alors, le chrono, est-ce qu'il est? Mais j'ai peut-être perdu le fil pendant quelques secondes. Est-ce qu'on a parlé du cas de Lost?
Pas encore.
D'accord. Je voulais être sûr, hein, parce que là aussi, il y en a une belle tartine.
Alors, tu as raison que, on a aussi là un pasteur qui, en tout cas, il se fait passer pour un prêtre missionnaire, alors que, en fait...
Il y a le pasteur, et puis il y a aussi la représentation d'un pseudo-dieu à la fin aussi.
Oui, mais ça, on y reviendra.
Voilà.
Voilà.
Pause musicale, bien méritée.
Pause musicale, alors on va aller du côté de Preacher et on va s'écouter My Sweet Lord de George Harrison.
C'était déjà dernière partie de cette émission Série Folie avec l'ami Aurore. On parle de Dieu, la représentation en tout cas, qui en est faite dans les séries télévisées. On te laisse continuer ton bout de chemin, Aurore.
Oui, alors jusqu'ici, on a plutôt parlé de des représentations très très concrètes, finalement, puisqu'on nous le représente sous plein de formes différentes. Maintenant, je vais parler peut-être d'une autre forme qui sous laquelle on peut aussi nous représenter l'idée de Dieu, même si on ne le voit pas. Ça se manifeste davantage dans les événements. C'est l'idée peut-être d'une providence, en tout cas, d'une force à l'œuvre qui permettrait que des choses extraordinaires adviennent dans la vie, dans les histoires qui nous sont racontées. Alors je les classerais en deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un côté où c'est l'idée d'un principe organisateur du monde, ou parfois même plus quelque chose de tellement inopiné et fou que ça va paraître comme une intervention surnaturelle dans le cours des événements. Je pense notamment à Fargo, principalement ce qui se passe à la fin de la saison 2, même si justement rien n'est clair sur ce qui se passe exactement, mais en tout cas il se passe régulièrement dans les trois saisons de Fargo qu'on a eues jusqu'à présent. Il se passe parfois des événements totalement inexplicables, ou en tout cas inexpliqués, qui peuvent laisser penser que tiens, il y aurait quelque chose d'autre que simplement notre petite vision du monde tel qu'il se présente à nous. Donc ça, c'est peut-être l'aspect le moins évident. On va aussi avoir, mais là plus peut-être dans l'ordonnancement du cours de l'histoire, du temps, dans Fringe, ces personnages d'hommes chauves, je ne sais plus comment ils les appellent exactement, mais qu'on retrouve comme ça tout au long de l'histoire et qui semblent surveiller un petit peu ce qui se passe et être toujours aux premières loges de ce qui arrive. J'ai pensé aussi à Dirk Gently, Holistic Detective Agency, dans lesquels on a aussi un principe régulateur qui va finir par tout mettre, tous les événements absolument invraisemblables qui se passent dans les différents épisodes, et qui va réussir, comme par magie, à tout remettre en place pour que ça ait un sens. On a dans My Name is Earl, évidemment, sous la forme du karma, le karma qui lui aussi donne un sens aux gestes qui sont posés, notamment principalement par Earl. Et enfin dans Pushing Daisies, où là aussi on a en tout cas quelque chose d'assez mystérieux qui a permis aux héros d'avoir le pouvoir de ressusciter les morts, dont on pourrait se demander aussi d'où il vient et pourquoi il lui a été donné à lui. Donc ça, c'est plutôt la première catégorie. Et puis, dans une autre catégorie, même si forcément les deux pourraient s'entre-pénétrer les uns les autres, ce serait aussi un principe régulateur, mais derrière lequel il y aurait un petit peu l'idée que finalement, c'est un petit peu nous et c'est un petit peu la communion humaine qui permet à ces événements magiques d'advenir. Je pense par exemple à DOA, dans lesquels finalement le final peut laisser un peu penser qu'il y a une forme de magie, mais qui advient à travers l'harmonie de la danse qui est faite par les différents membres du groupe. Je pense aussi à la série Here and Now, dans laquelle aussi on va avoir des événements un peu inexplicables qui adviennent, mais qui lie les êtres humains entre eux et qui peut s'expliquer en partie par là. Et puis aussi dans Philip K. Dick, Electric Dreams, on pourrait aussi retrouver dans pas mal d'épisodes cette idée que finalement c'est un petit peu l'espèce humaine en tant que telle et nos possibilités de nous connecter les uns aux autres qui permet au meilleur du monde d'advenir, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt du côté positif, du côté providence que les séries vont nous présenter. Maintenant, il n'y a pas que ça. Tu t'en doutes, dans les séries aussi, il y a beaucoup la représentation d'un monde qui, au contraire, est habité par le mal. Un monde qui serait presque exclusivement un monde non seulement abandonné totalement par Dieu, mais livré aux forces du mal, les pires. Alors c'est la thèse principalement que tient Paco M'Tillemant quand il s'intéresse aux séries, hein, à travers le courant du gnosticisme, qui était un courant plutôt en vogue pendant les premiers siècles, un peu en parallèle, parfois en même temps et parfois en opposition avec l'apparition et les premiers pas de l'Église chrétienne. Et là, enfin, en tout cas, Paco M'Tillemant montre à quel point dans certaines séries, les thèmes gnostiques vont être mis en avant. Lui, il parle notamment de la série Lost, de la série Twin Peaks. Il parle aussi de Carnival, dans laquelle, en effet, ces thèmes-là semblent assez présents. Je crois qu'on pourrait sans trop de problèmes ajouter The Leftovers à cette liste-là. Et puis, comme je t'en avais parlé, American Gods, dans lesquels on a en effet la présence de plein de divinités, mais des divinités qui sont plutôt destructrices finalement à l'œuvre. Je me demande si ça pourrait pas aussi rentrer dans cette catégorie-là, même si c'est une série que j'ai pas suivie, donc ça reste à confirmer. J'ai aussi la même interrogation autour de la série Game of Thrones, puisque finalement là aussi on a certaines puissances divines qui peuvent être à l'œuvre à certains moments. On a aussi l'idée plutôt d'un monde habité par des forces, mais qui sont bien souvent plutôt des forces destructrices et mauvaises, hein. Donc je me demande si on pourrait pas le placer aussi là-dedans. Et pourquoi pas dans Ash versus Evil Dead aussi, avec l'idée qu'il existerait comme ça des forces maléfiques qui vivent parmi nous. J'avais aussi pensé, mais sur un tout autre thème, à la série Godless. Simplement, je trouve ça assez intéressant de voir que dans une série qui s'appelle Sans Dieu, donc, en fait, c'est une série dans laquelle il n'y a pas d'hommes. C'est une ville dans laquelle il n'y a pas d'hommes. Et je me suis posé la question, tiens, est-ce que c'est voulu et est-ce qu'il y a une idée comme ça que Dieu serait forcément la présence des hommes parmi les femmes. Bon, bref, ça c'est une petite interrogation comme ça que je voulais placer. Et enfin, je terminerai par une série qui se pose pas la question de Dieu et pourtant elle devrait, j'ai l'impression, se poser. C'est dans The Good Place. The Good Place, c'est censé se passer au paradis, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Et puis donc on se dit plutôt que tout ça est organisé de manière bonne, hein. et puis en fait on part du principe comme ça que Michael, c'est un ange et qu'il organise tout ça, on imagine, pour Dieu, même si on ne l'évoque jamais, et on comprendra plus tard pourquoi. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant que finalement, on traite de ces questions-là sans avoir besoin d'invoquer la question de Dieu. Et dans The Good Place, comme dans beaucoup d'autres séries dont j'ai parlé précédemment, finalement, le message dans lequel, dans un monde globalement plutôt fait de du mal, on est entouré plutôt par la tentation, par le mal, etc. Eh bien, le Dieu, ce qui fait la divinité, finalement, ça va être les liens entre les humains, ce qui va leur permettre de tout à coup s'intéresser les uns aux autres, ne pas rester purement dans leur coin, égoïste, etc. Et donc, ça n'est pas une représentation de Dieu, et en même temps, peut-être que c'en est une, et que c'est celle qui est le plus souvent d'ailleurs présente dans les séries télévisées. Ce serait ça.
Voilà.
Dieu, c'est nous. Voilà.
J'ai toujours pensé. Hein.
Oui, toi, t'as toujours pensé que c'était toi, surtout.
Et ma religion, d'ailleurs, c'est « Je crois en moi
». Ok.
Tu vois ?
Oui.
Ça, c'est sur mon profil Facebook. Bon, bref, ils ont eu du mal à me mettre dans une catégorie. À mon avis, le gars à moitié fou. Ce sera le mot de la fin. Pour le reste, eh bien, sachez que cette émission sera podcastée dans les prochaines heures, prochains jours, sur Internet, via le site notamment www.seriefolie.be et d'autre part, via les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine pour la dernière de la saison et on va se quitter en musique.
On va se quitter avec Muse et Exogenesis Part 3 qui s'appelle Redemption et c'était dans The Simpsons.
Merci pour ça, à la semaine prochaine.